On me dit que c'est moi qui donne le top de départ de cette rencontre. Alors je devrais, en quelques mots, vous dire que c'est une grande joie d'avoir ici, de gauche à droite, si je peux dire, Alain Gesmard, une des figures les plus importantes de mai 68, et d'autres choses aussi, mais il est là aujourd'hui pour ça. Edgar Morin, sociologue, qui était un de ceux qui ont tout de suite compris l'intérêt, l'importance de ce mouvement. Alain Touraine, qui était un autre de ceux qui ont compris l'importance de ce mouvement. Danny Cohn-Bendit arrivera dans une dizaine de minutes. Donc il fera une arrivée à la Danny Cohn-Bendit. Voilà. Accompagné de Romain Goupil, m'a-t-il dit. Donc nous aurons la joie aussi d'avoir Romain Goupil avec nous. Alors, si Cléa, qui va animer cette rencontre, le veut bien, je dis deux, trois mots de pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui.
Oui, avec plaisir, Michel. Et je pense que Thomas Hofnung, qui est mon collègue sur la rubrique politique et société, s'enchantera de continuer.
Alors voilà. Donc, je n'ai pas encore présenté Thomas Hofnung. Thomas Hofnung est notre partenaire à la revue Socio et avec la Fondation. Et donc, Thomas Hofnung et Cléa représentent ce soir The Conversation. Je ne sais pas comment il faut prononcer, puisque c'est un journal français.
Oui, à l'anglaise, même si on est un média français. J'en profite pour dire un petit mot sur The Conversation. D'abord, je voudrais remercier Michel et la Fondation de nous avoir fait confiance pour diffuser ces textes de très grande qualité sur mai 68 avec les textes des acteurs et des témoins de premier plan de cette période. Et donc vous dire un mot sur The Conversation, qui est un site d'analyse de l'actualité par les universitaires. On est un petit groupe de journalistes avec Cléa et d'autres qui animons ce site, mais la parole est donnée aux universitaires et aux chercheurs sur l'actualité. Alors nous revenons bien sûr sur mai 68 avec la revue Socio, et nous avons demandé, nous faisons partie d'un réseau, The Conversation, s'il porte ce nom anglais, c'est qu'il a été créé d'abord en Australie et puis il a essaimé dans différents pays, Australie, Grande-Bretagne, Afrique du Sud, Canada. Et nous avons demandé à notre réseau s'ils étaient intéressés par le cinquantenaire de mai 68. Et on s'est aperçu effectivement qu'il y avait un vif intérêt pour mai 68, ce que ça a représenté en France et son impact dans le monde entier. Et nous avons recueilli un certain nombre de questions que nous adresserons à nos invités et grands témoins. Pour commencer, j'avais une question pour Edgar Morin. Dans l'entretien que vous avez accordé à Michel Viviorca, vous dites en mai 68, c'était un moment de joie, notamment la première semaine, et vous dites à ce moment-là, les cabinets des psychanalystes se sont vidés, les gens n'avaient plus de maux d'estomac, tout le monde allait mieux, et ça n'a pas duré, mais il y a eu cette période, ce moment un peu de grâce. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, ce que ça a représenté?
Moi, c'est vrai que on a pu constater un phénomène que j'avais moi-même vécu adolescent en juin 1936, quand il y a eu un mouvement généralisé de grève et d'explosion de joie. Et il faut penser que dans la première semaine, le phénomène qui, du reste, a créé immédiatement une contagion dans les milieux intellectuels, artistiques et autres, mais le fait que le pouvoir s'est soit trouvé brusquement tétanisé, immobilisé, a créé une sorte de désinhibition générale. Et c'est vrai que les gens se parlaient dans la rue, discutaient, etc. Et au début, évidemment, c'était brusquement tout s'arrêtait, mais c'était en même temps la fête, il y avait la chronologie, les choses quotidiennes semblaient se dissoudre. Et c'est progressivement qu'on a senti que, par exemple, l'absence de la réfraction de l'essence commençait à gêner les gens, que les difficultés de ravitaillement, voilà. C'est progressivement cette joie du début s'est dissipée. Et finalement, dans la population, ça finit par créer cette peur finale de fin mai que a catalysé le discours de De Gaulle. Il y a une différence formidable entre les débuts de cette... c'est comme... Je ne dis pas que c'est une révolution, mais toutes les révolutions enfants, tous ces débuts-là sont des débuts heureux, fraternels, qui ne dure jamais longtemps. Et ça a été le cas, en tout cas, que j'ai vécu, que nous avons vécu.
Michel Viviorca, quand vous interrogez Alain Touraine sur, vous parlez du fait que mai 68 s'inscrit dans un grand mouvement de convulsion planétaire, et Alain Touraine parle beaucoup dans cet entretien de Berkeley en 1964. Est-ce que vous pouvez nous dire, mai 68 en fait a démarré avant mai 68?
Berkeley, ça a démarré, je dirais même, soyons honnêtes, Berkeley a eu beaucoup plus d'impact que mai 68, parce que les États-Unis avaient toute une culture de la jeunesse. Woodstock, c'est 69, non? C'est-à-dire, et ça recommence en 68. Mais pas ce qu'il y a de mieux, d'ailleurs. Disons, en 68, les États-Unis sont plutôt du côté violence. Un peu à Cornell, et surtout, c'est très important à Columbia. Donc, les deux dans l'État de New York. Mais ensuite, ça se traduit par un mouvement de violence qu'on appelle les weathermen, les météorologistes. Ce que ça va devenir, c'est les années de plomb européennes, italiennes, allemandes et françaises du début des années 70. Mais l'impact qui vient d'être évoqué à l'instant par Edgar, l'impact, disons, climat, libération, jouissance, etc., c'est beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, je rappelle que nous avons vu à Nanterre, enfin moi je ne suis pas Sorbonne du tout, je suis Nanterre, et à Nanterre, nous avons vu des gens qui venaient de Berkeley, et en particulier le Living Theatre, qui est venu jouer, de même que nous avons vu Dutschke à Nanterre. Si vous voulez, c'était quand même cette atmosphère avec toutes les tendances, la tendance allemande, la tendance française, la tendance américaine, mais le climat culturel, ce sur quoi j'ai moi beaucoup insisté toujours, était probablement plus marqué, plus fort, puisque tout le monde le sait, la culture populaire moderne, elle est essentiellement nord-américaine et un peu anglaise, mais enfin pas du tout française. La chanson française, c'est Un autre monde.
Oui, merci beaucoup. Donc, comme Thomas l'a exprimé tout à l'heure, nous avions des questions qui venaient de tout notre réseau, donc à la fois des chercheurs et de journalistes du monde entier, du réseau de Conversation, et particulièrement pour rebondir sur ce que vous dites, Monsieur Touraine, sur l'importance des contacts que chacun d'entre vous a pu avoir avec des étudiants d'autres pays à l'époque. Donc vous avez évoqué tout à l'heure les Américains, mais également peut-être le contexte international d'autres pays. On pense à la Tchécoslovaquie notamment, on pense aussi à la Pologne, on pense également à ce qui se passait à ce moment-là en Irlande du Nord, et aussi le séparatisme québécois. Voilà. Donc comment est-ce que vous avez été en contact avec toutes ces personnes?
Alors, Dani, tu arrives au moment d'une question, donc on va écouter la réponse ensemble.
Peut-être Alain, pour Alain Gesmar, peut-être, si vous voulez dire oui. Un mot là-dessus, les contacts entre les étudiants français et autres.
Mais Alain va répondre.
Je n'étais pas étudiant. Voilà. Donc, je n'avais pas spécialement de contact avec les mouvements étudiants qui se produisaient dans le monde. J'avais été sans doute plus frappé par l'arrivée des chars devant l'université de Rome à l'hiver 67-68 que le reste. Et pour dire juste un mot de Berkeley, je crois qu'il est utile de rappeler qu'à l'époque, il y avait la guerre du Vietnam et que les étudiants étaient appelés par le draft, c'est-à-dire devaient faire leur service militaire comme la France l'avait connu pendant la guerre d'Algérie, et que ce n'était pas pour rien dans les mouvements étudiants aux États-Unis. C'était pas uniquement des mouvements de contre-culture, c'était aussi des mouvements de protestation contre l'enrôlement des étudiants dans l'armée américaine.
Peut-être puisque Daniel Cohn-Bendit nous a rejoint. Bonjour.
Enchanté.
Thomas Hoffnung, The Conversation. Vous, dans l'entretien croisé avec Alain Gesmar, au tout début, vous dites, j'ai fêté les 2 ans, les 5 ans, les 10 ans, les 20 ans, je ne fêterai pas les 50 ans. C'est comme si vous n'échappiez pas à votre destin. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que mai 68, ça reste... Il y a toujours une appétence pour mai 68, pour, comme une sorte de fascination. En tout cas, ça reste une référence. Comment vous l'expliquez vous-même ?
J'échappe à mon destin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je peux pas expliquer. Enfin, je suis un homme libre. Non, il n'est pas. Il n'y a pas de déterminisme. J'explique que oui, c'est les gens sont fascinés et je suis fasciné par tous ceux qui aujourd'hui se sentent obligés ou de dire mai 68 est la responsabilité de tout. Non, en fait, la seule question, mais j'ai pas la réponse, c'est que le mythe de 68, c'est pas si c'était qu'en France, tu dis bon d'accord, il y a une grève générale, mais dans le monde entier, si j'ai dit moi je m'abstiens, c'est que je pouvais faire un tour du monde, de l'Argentine en passant par le Brésil, par les États-Unis, par le Canada, l'Afrique du Nord, toutes les villes européennes, tout le monde veut discuter de 68. Je dis bah, très bien, discuter de 68. Donc, en fait, en une phrase, 68, c'est la fin des révolutions. C'est le début de l'ère des révoltes. Et les révoltes, et puis ça continue, les révoltes ne s'arrêtent pas. Et donc, ça reste dans l'imaginaire, on peut se révolter, on peut faire quelque chose. Alors après, maintenant, les gens disent les choses, parce que, disons, en 68, ce n'était pas toujours très intelligent ce qu'on disait. Hein. C'est pas, quand on revoit les interviews et tout ça, c'est... Oui, d'accord, je dis, on aurait pu être un peu plus malin d'un côté. Des fois, c'était assez intelligent. Bon, voilà, et donc ça donne du pain à tout le monde, mais il ne faut pas s'en faire. Hein.
Peut-être justement ce que vous dites sur l'impact de mai 68. Ah, pardon, si vous voulez intervenir.
Je voudrais juste dire un mot. 50 ans après, il me semble qu'il serait temps de fermer la porte de l'ère des témoins et de passer la main aux historiens, aux archivistes. Les archives viennent d'être ouvertes cette année, parce que 50 ans, c'est une date pour les archives. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains des archivistes qui travaillent là-dessus. Si on veut tordre le cou à un certain nombre de mythes, c'est une excellente chose que de donner la parole, non plus à des témoins qui, nécessairement, 50 ans après, j'en fais partie, reconstruisent leur histoire et celle de 68. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. La vie a passé. Mais je pense qu'il faudrait réellement que l'essentiel des choses soit dites par les scientifiques.
Par rapport à l'impact de mai 68, dans les entretiens parus dans Sociaux, Alain Touraine, à un moment donné, vous avez une réflexion très forte où vous dites l'impact politique a été, je crois, vous dites, je ne sais pas si vous dites nul, mais en tout cas n'a pas été aussi important qu'on pourrait le penser. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Je vais répondre aux deux choses. D'abord, l'impact politique, il est négatif. Je veux dire, partout, Italie, Allemagne, France, 3 ans après, c'est les années de plomb. Ça se termine par l'assassinat d'Aldo Moro, qui voulait demander aux démocrates chrétiens de faire alliance avec les communistes, qui n'étaient pas quand même particulièrement réactionnaires, pour empêcher un coup d'État à la chilienne. Car je connais bien l'affaire italienne, c'est vraiment l'expérience du coup d'État chilien qui fait que les Italiens ont pris peur. Ils se sont dit, il faut faire un front, les Chiliens n'ont pas réussi à le faire, il faut le faire pour ne pas avoir... On avait aussi peur de la violence d'extrême droite que de la violence d'extrême gauche en Italie. Deuxièmement, je voudrais dire que je suis quand même... Enfin, non pas, je ne pense pas que... Non. Je pense vraiment une chose différente. Je ne pense pas du tout qu'on a quitté le monde des révolutions. Le mot révolution, je ne l'aime pas beaucoup. Il n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Mais enfin, disons, les mouvements de la société industrielle, c'est fini. C'est fini le 13 mai.
Je n'ai pas dit ça.
Oui, non. Non, mais moi...
Je dis... Ah bon, d'accord, pardon.
Non, je dis. Pardon. Non, justement. Mais ce qu'on voit, ce qui est toute la... Tout ce qui est passionnant dans l'affaire, comprendre mai 68, c'est comprendre comment des gens qui, en fait, sont en train de créer les mouvements, les thèmes, les inquiétudes, les soulèvements de l'avenir, d'une société qui est dominée par les problèmes de la culture et de la personnalité plutôt que par ceux de l'économie, passe par cet appel au mouvement ouvrier. Pourquoi ? D'une manière assez géniale et que nous partageons tous, parce que je pense que c'est ça ce qu'il y avait de commun, c'est de vouloir s'opposer aux bolcheviques, s'opposer à Lénine et si je peux dire, au Parti communiste français, au nom du mouvement ouvrier, au nom de ce qui a été une grande tradition aussi en France, le syndicalisme d'action directe, auquel tant d'entre nous ont consacré tant de temps, etc., etc. Et donc, comment est-ce que, chose qui est assez banale, vous savez, la Révolution française, ça a aussi commencé avec des thèmes du XVIIIe siècle, avant, après 1848, de se transformer en mouvement ouvrier. Eh bien là, c'est avec le retour au mouvement ouvrier écrasé ou assassiné par le parti bolchevique qu'on a commencé à faire naître une nouvelle sensibilité que je n'appellerais pas révolutionnaire, mais que j'appellerais tout simplement de mouvement social, comme ça s'est dépassé autrement. C'est ça qui m'intéresse le plus.
Oui, mais il y a un truc quand même. C'est que quand tu réécoutes les choses, moi, ce qui m'angoisse, c'est que notre langage était complètement à côté de la plaque. Complètement. Donc c'est ça qui est... Tu dis...
C'est toujours comme ça.
T'es pas rassurant, là. Moi, mais c'est pas vrai. Regarde. Tu vois Edgar, là. Tu vois Edgar. Pourquoi lui, eux, ils ont été capables, tu vois, c'est-à-dire dans la lancée avec la brèche. Ils ont été capables de théoriser ce qui se passait en ce moment, ou d'un moment, sur le champ. Et après, il y a eu ton bouquin, quelques bouquins, mais le reste, quand tu vois ce qui a été produit, c'était dramatique, y compris ce que j'ai écrit moi, hein, je ne veux pas dire... C'est quand même affligeant. Et c'est ça qui me dit, écoutez, moi je veux bien, 68, c'est sûrement... Ça a ouvert des tas de portes, mais on a mis du temps à en fermer.
Oui, mais les quelques personnes qui sont ici, qui ont compris ce qui se passait, ils sont... 50 ans après, ils reçoivent la démonstration par l'opinion publique et l'histoire que c'est eux qui avaient raison. Et que j'ai entendu un type du cinéma qui parlait et qui disait « Moi, j'ai adoré mai 68, c'est ça qui m'a fait entrer au Parti communiste. » J'avais envie de dire « Quel con !» J'avais envie de dire « Quel con !»
Est-ce qu'Edgar Morin voulait réagir là-dessus, sur ce débat révolte, révolutionnaire, révolution.
Oui.
C'était pas une révolutionnaire,
mais bon, tout d'abord, c'est vrai que moi, ce que j'ai voulu faire à l'époque, d'abord, c'était de décrire ce qui se passait sur le moment même. J'ai écrit dans Le Monde des articles qui sont commencés le 12 ou le 13 mai, et j'ai continué. C'est-à-dire, j'ai tenté. Pas seulement une description, mais d'essayer de comprendre ce qui se passait. Bon. Et là aussi, je suis arrivé à cette ambiguïté, parce que ça, il y avait à la fois un sérieux et un jeu. Il y avait une croyance que c'était quelque chose de... Et surtout, à partir du moment où les groupuscules ont bien commencé à parasiter le mouvement, qu'on faisait une sorte de révolution... Et en même temps, c'était le mime, c'était le jeu de la révolution. C'est-à-dire ce mélange de jeu, de sérieux, cette sorte d'ambiguïté de la chose qui fait que, du reste, les groupuscules ont cru que c'était la répétition générale de quelque chose qui allait venir. Ben, c'était ça qui m'avait beaucoup frappé. Maintenant, ce que je crois, parce que moi, j'hésite d'abord. C'est vrai qu'il y a une internationalité des révoltes étudiantes. Que moi-même, en mars, avant mai, j'ai fait une communication à Milan sur cette internationalité en me disant, mais quel est le trait commun entre ces révoltes étudiantes et celles de tous les autres pays ? Rien, sinon, contre l'autorité.
Exact.
Contre l'autorité. Exact. C'était ça. C'est ça. C'était d'un côté de liberté. Bon. Alors, donc, la deuxième chose. Voilà. Oui. La deuxième chose, c'est vrai que parmi que les révoltes étudiantes, sauf en Californie, sont restées confinées dans le monde étudiant et ont subi parfois des répressions terribles comme au Mexique, etc. Et c'est vrai aussi que c'est le seul cas où une révolte étudiante d'abord déborde sur les lycéens, déborde sur tout le milieu artistique, littéraire, etc. Il faut oublier que le festival de Cannes s'est interrompu à ce moment-là, etc. Et finalement réussit à déborder sur les masses ouvrières qui font la grève massive. C'est le seul cas, la seule différence, le seul pays où ça a été aussi, où il y a eu un mai en durée, c'est la Californie et un peu les universitaires. Et en Californie, il y a une contre-culture qui s'est profondément vécue pendant quelques années, beaucoup plus longtemps que mes soeurs. Mais c'est le seul cas. Alors donc, c'est un cas tout à fait étonnant et propre. Et c'est pour ça que mai 68 fascine le monde entier, le mai français, parce qu'il y a eu ce phénomène. Alors, l'autre aspect, c'est que brusquement, ce mouvement gigantesque disparaît. Et non seulement il disparaît, mais des élections massives pour la droite et pour le parti gaulliste. Et là aussi, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est après, progressivement, qu'on a vu une transformation des mœurs que, disons, le mouvement féministe, féminin, nouveau, a pris son essor, que les homosexuels ont commencé à être reconnus, qu'il y a eu une libération générale. Alors, là aussi, il y a quelque chose de très important. Quand je vois, par exemple, Luc Ferry qui insiste sur le côté individualiste, il oublie le côté complémentaire et antagoniste. C'était un mouvement individualiste et fraternitaire. C'est-à-dire, c'était pour l'épanouissement de l'individu, jouir sans étrage, mais toujours dans cette ambiance de recherche, de communauté, ce qui fait que ça a pu être séduit par le communisme trotskiste ou maoïste. Et si on pense que mai 68 est uniquement individualiste, on ne voit pas. Et si on pense qu'il est uniquement communautaire, c'est les deux ensemble et qui sont des aspirations humaines profondes. Moi, je pense que les adolescents ont exprimé des aspirations profondes de l'humanité qui s'endorment quand on arrive à l'âge adulte. Et ça, je crois que c'est le phénomène, je dirais presque anthropologique de mai 68. Alors donc, c'est un objet inépuisable de méditation, parce que il a... Ah oui, je veux ajouter que quand on dit qu'après, que les grands 68 arts se sont installés dans la société, etc., ben, ça tient non pas à l'idéologie de 68, ça tient à la retombée, à la déception. Il faut penser aussi au collapse total de l'espérance marxiste après 77, la bande des quatre, le Vietnam impérialiste et tout ça. La retombée a fait que ceux qui étaient en usine, ceux qui sont partis, ceux qui espéraient, bah, ils se sont installés dans la société, ce qui est normal. La retombée de mai 68 était la retombée dans la société dite de consommation. Voilà ce que je peux dire.
Alain Gesmard voulait réagir. Oui. Oui. Merci Edgar Morin.
D'abord, une remarque en écho à quelque chose que j'ai aperçu dans la salle et qui a son importance. Il n'y a que des hommes ici.
Non. Pardon.
Ici, sauf quelqu'un qui est effacé et qui passe la parole. Donc on est bien 50 ans en arrière. On est bien dans quelque chose qu'on a connu à l'époque, et je pense que ça, parce que c'est la réalité de ce qui se passait en 68, qui est en image ici. Il y avait énormément de femmes dans les mouvements et très peu parmi ceux qui tenaient le micro et qui donnaient des interviews, fort peu. Donc ça, c'était déjà une remarque. Parce que j'ai à un moment senti un petit frémissement et je tenais à faire cette petite mise au point. La deuxième observation que je voudrais donner, justement, les archives se sont ouvertes. Et je viens d'avoir une discussion avec une des archivistes qui travaille sur 68 aux archives. Et ils sont tombés sur les archives policières. Alors, ils ont trouvé deux choses. D'abord, personne dans la police n'avait prévu ce qui était en train de se passer. Les renseignements généraux n'avaient strictement rien vu. Ils étaient complètement focalisés sur l'Union soviétique. Et donc, ce qui pouvait se passer à côté, il était un peu sur les reliquats de l'OAS, mais ça s'arrêtait là. Et puis, deuxièmement, la police a procédé à pas mal d'arrestations dans les premiers jours des manifestations à partir du 3-4 mai. Et il y avait une part très importante de jeunes ouvriers parmi les gens arrêtés dans les rues au quartier latin et ailleurs. Dès, non pas après la grande manif du 13 mai et le déclenchement des grèves à Sud Aviation, etc., mais dès le 3-4 mai, c'est-à-dire que l'écho dans la jeunesse n'était pas... était immédiat et n'était pas uniquement enfermé dans la jeunesse des facs. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait important de noter pour comprendre comment s'est fait cette transmission, comment cette brèche que tu as décrite s'est en fait déroulée. Voilà les deux éléments. Juste une autre petite alors, observation. Le défilé de fin mai gaulliste a été préparé de très longues mains par tout l'appareil qui fonctionnait autour de Gaulle, qui avait été mobilisé entre autres contre l'OAS, les CDR, les SAC, etc. Et ce n'est pas un appel du général qui a en 10 minutes mis dans la rue des dizaines de milliers de personnes. Elles avaient déjà été des centaines de milliers. On a même dit 1 million, j'en sais rien. Plus que ne pouvaient en contenir les Champs-Élysées, en tout cas. Et ça avait été, ça aussi c'est dans les archives, ça avait été préparé de très longues mains. Donc c'est pas uniquement l'épuisement du mouvement qui amène cette manifestation, même si la traduction électorale est liée à un certain épuisement du mouvement, mais le retournement se fait différemment que ce qu'on avait imaginé jusque-là.
Non, l'analyse d'Edgar sur l'épuisement est juste, mais sur les élections, c'est pas l'épuisement. Le génie de De Gaulle a été de dire « c'est moi ou les communistes ». Et une partie de gens même qui ont fait grève, ils disent « nous, on veut tout sauf les communistes au pouvoir ». Puisque nous, on était cons et qu'on a dit élection piège à cons et qu'on n'a pas su formuler une alternative qui venait dans ce moment, on avait peut-être raison sur le moment, ça fait que le débat, c'était entre les communistes et De Gaulle, et il est évident que la grande majorité même des ouvriers ne voulait pas des communistes au pouvoir. Et donc, en fait, la mort du Parti communiste a commencé en 68, ça a mis du temps. Alain a voulu reconstruire un Parti communiste, ça a mis du temps pour qu'ils comprennent que ça, c'est complètement ridicule. Tout ça, nous, les libertaires, on était toujours pour les losers de l'histoire. Donc on disait Catalogne 36, les soviets au début. Donc nous, de toute façon, on était du côté des perdants dans l'église, on n'avait rien à gagner, etc. Et on a mis du temps à formuler par l'expérience, et ce que dit Edgar sur l'autorité, ce qui est quand même fascinant. Moi, j'ai fait un débat une fois avec Adam Michnik. Bon, il y avait un mouvement en 68 en Pologne qui s'est terminé par une vague d'antisémitisme incroyable, etc. Mais lui, Adam, il disait, mais vous faites une révolte au nom du communisme. Il voyait les drapeaux rouges, il dit, et nous, on voulait te supprimer tout ça, mais ce qui est vrai, c'est qu'on s'est retrouvé sur une analyse de l'autorité, de la génération de l'après-guerre qui a construit, que ce soit le communisme ou ce qui est passé chez nous, avec une certaine vision de la hiérarchie de l'autorité. Et que eux et nous, on s'est battus contre cette même structure, même si c'était totalement différent, dans un monde totalement différent. C'est ça qui est intéressant. Mais encore une fois, après, il y a eu des tas de choses qui sont arrivées. Et tous ces reproches, les gens de 68 se sont installés. Oublions, mais oui, ils se sont installés, ils ont vécu. C'est inintéressant tout ça. C'est tout inintéressant. On perd notre temps à discuter où les 68ards sont au pouvoir. J'ai demandé, ah oui, Mitterrand, c'est un 68ard. Tiens, je ne savais pas, j'avais oublié. Giscard, c'était un 68ard. Ah oui, j'avais oublié, tiens. Je comprenais. Enfin, on prend tous les gens au pouvoir, mais qui était au pouvoir? Donc tout ça, c'est du baratin. Il faut maintenant accepter que ça a bouleversé la société. La société a continué à s'être bouleversée. Et puis aujourd'hui, y a d'autres brèches qui s'ouvrent et ça s'appelle MeToo et tout ça. C'est le même phénomène. Il y a une brèche qui s'ouvre et tout d'un coup, on voit que ce qui était dans les bas-fonds de la société, ça remonte à la surface et ça change complètement les choses.
Justement, à ce sujet-là, merci beaucoup, c'est comme a dit. Est-ce que l'un de vous, vous tous, souhaitez réagir sur ces nouvelles formes de mobilisation qui existent à travers le monde, notamment, vous parliez d'autorité tout à l'heure, mais notamment face à des pays où les populismes, l'autoritarisme montent tout autour de nous.
Si je peux dire un mot dans la discussion que Alain et Dany ont eu pour sociaux, à la fin, je leur dis qu'est-ce que vous pensez de Nuit debout? Et je les ai trouvés très sévères. Donc, je pense que ça fait partie du décor. J'aurais auparavant, avant qu'ils réagissent et mes voisins de droite aussi, bien sûr, dire une ou deux choses. Un, dans le numéro de sociaux, il y a un très beau texte de Karol Modzelewski sur la Pologne. Et c'est très intéressant. Alors, pour un historien, il dit, on comprend mieux mars 68 en Pologne quand on connaît mai 68 en France. Il dit, ça me pose quand même un petit problème en tant qu'historien. Bon. Deuxièmement, on verra tout à l'heure quelques images. Là, c'est un début de réponse insuffisant au côté très macho de cette rencontre. On écoutera tout à l'heure Elisabeth Roudinesco, qui fait partie de ce dossier et qui a parlé quand même aussi de 68. Et leur dernier mot, on pourrait dire un mot du flop qui a été Charletti, c'est-à-dire la seule tentative à gauche d'essayer de relancer, me semble-t-il, enfin, de prolonger le mouvement politiquement. Donc voilà les deux, trois points sur lesquels je voulais dire un mot.
Merci Michel.
Je veux dire un petit mot là. J'ai eu tendance, lorsque j'ai écrit, à sous-estimer les conneries du mouvement. Par exemple, je savais bien que CRSSS était complètement imbécile.
C'était une bêtise incroyable.
J'ai voulu voir que les beaux côtés et pas les côtés crétins. Deuxièmement, il faut dire aussi que mai 68 a été aveugle, non seulement sur la Pologne, mais sur le printemps de Prague, qui s'est passé à ce moment-là, on était aveugle tout en étant son caractère libertaire, mais on était en voyant le Vietnam et les côtés anti-impérialistes, on était aveugle sur les révoltes contre le système stalinien ou stalinoïde qui se faisait au même instant. Donc ça fait partie des carences intellectuelles de mai 68. Mais ces carences intellectuelles qui sont importantes, mais ne doivent pas nous masquer le jaillissement profond des aspirations qui se sont manifestées et que seuls des libertaires, comme Gandhi, comme ceux du 22 mars, pouvaient exprimer parce qu'ils n'étaient pas dans le carcan d'un parti soi-disant révolutionnaire avec tout le dogmatisme qui accompagne. C'est ça, dans le fond. Alors qu'en France, on avait presque oublié la tradition libertaire qui a été forte au XIXe siècle avec la bande d'un bonhomme. Brusquement, d'ailleurs, il y a eu l'influence, à travers ton frère, de socialisme ou barbarie, qui est du communisme libertaire. Et ce côté libertaire, qui est souvent nié en France, a été formidable pour mai 68.
Peut-être donc la question de Cléa sur le populisme.
Oui, si l'un de vous souhaite réagir sur cette montée d'autoritarisme tout autour de nos pays actuellement, peut-être. C'est toi.
Non, je trouve ça un peu étroit, comme disons porte de sortie, parce que quand même, ce qui est beaucoup plus large que libertaire, qui a été la tête de, disons, qui a trouvé plutôt que cherché, mais c'est que avant les mouvements ouvriers, les révolutions, etc., c'est un problème économique auquel on donne une solution politique. Et là, quand même, le grand changement et qui n'a pas cessé depuis 50 ans de s'accuser, de se renforcer, c'est que ce sont des problèmes qui concernent, j'allais dire, l'âme, l'esprit, la volonté, le type d'humanité qu'on veut. Et lié aussi à tous les problèmes de l'ensemble de l'être humain, parce que quand même, les mouvements de femmes, c'est quand même les mouvements intéressants, je veux dire, genre MLF, pas seulement le droit de vote qui était donné, c'est quand même en 68 que ça démarre. C'est-à-dire de reprendre la volonté de changer toute la vie dans tout le corps et dans tous les aspects de la vie mondiale, parce que aussi c'est la première fois, n'oublions pas, en 68, que ce soit en Allemagne ou en France, on parle du Vietnam, le Vietnam est omniprésent, on parle de l'Iran et du Shah à Berlin, parce que où il y a la grande manifestation, etc. Disons, les problèmes des femmes, les problèmes de l'ensemble du monde ex-colonisé qui est l'ensemble de l'attaque contre le monde soviétique qui commence à subir les grandes attaques qui viennent des pays de l'Europe centrale. Et tout ça, ça va beaucoup plus loin que simplement... C'est là où je suis hésitant sur ce que je pense du thème de la brèche, parce que moi, je trouve que c'est quand même plus qu'une brèche, c'est un changement de décor, c'est un changement de civilisation. On n'est pas revenu en arrière. Il n'y a pas eu de retour au communisme, il n'y a pas eu de retour à la social-démocratie, etc. Tout ça, cette société-là, elle s'est progressivement épuisée et on est arrivé aux années incroyables, 16, 17, où tout d'un coup, l'Angleterre, d'abord M. Tony Blair qui passe l'arme à droite, si je peux dire, et puis et tout ça. Bon, tout ça, ça a commencé à Berkeley et à Nanterre, disons, et ça s'est poursuivi avec des hauts et des bas, tout ce qu'on voudra, mais quand même, aujourd'hui, on a traversé le détroit, on est arrivé sur un autre continent, on est dans une autre civilisation, ce qui fait l'action, ce qui fait... Bon, et le mot révolution ne fonctionne plus parce que 68, ce n'est pas une révolution, c'est une libération, ce qui est tout à fait autre chose.
Dans l'entretien entre Daniel Cohn-Bendit et Alain Gesmard, réalisé par Michel, vous dites que mai 68 reste très présent encore dans le débat public, politique actuel, à telle enseigne qu'un président de la République récent disait qu'il faut tuer mai 68. Donc ça reste une référence...
Lui, il est en train de discuter ça la PJ, avec la PJ, donc ça va, il trouvera la solution, là. Voilà.
Et ce que je veux dire, c'est que donc, il y a toujours cette... on fait toujours référence, négativement ou positivement, à mai 68.
Bah, écoutez, il me semble qu'il y a un peu de monde. Il y a aussi, je pense que... Pour un certain nombre de gens, c'est peut-être ils peuvent penser aussi que c'est la dernière fois qu'ils verront des témoins vivants. On fêtera, je suis pas sûr, Dani, qu'on fêtera le 100e anniversaire ensemble.
Et moi, je ne fête pas le 50, donc on pourra faire ce que tu veux.
Donc, il n'y a pas de souci. Bon, moi, j'ai toujours un peu de scrupule. J'ai toujours pensé qu'il fallait essayer de rendre compte quand on était interpellé, mais. C'est comme ça, chacun son truc. Je voudrais dire, moi, je veux bien payer tribut à Nanterre. Ça a été extrêmement important. Pour moi, ça a compté beaucoup. J'étais universitaire, secrétaire d'un syndicat universitaire. Ce qui se passait à l'université était décisif. Mais je ne peux pas oublier que l'année 67 a été l'année où, en France, il y a eu le plus de grèves ouvrières avec occupation d'usines, séquestration, 67.
Mais c'est pour ça que
donc, les origines de mai, comme la plupart des origines de grands mouvements ou de grandes choses, sont multiples. Et les causes et les mécanismes qui sont à l'œuvre, si on veut les réduire à une seule dimension... Ça ne colle pas.
Mais je voudrais dire mon accord parce que, mais je répète, c'est juste une demi-phrase. Les gens de 68 se sentent absolument proches des gens du mouvement ouvrier de base. Je vous rappelle que la section syndicale d'entreprise n'a été demandée par personne à Grenelle et que c'est la CFDT qui l'a demandé et qui l'a obtenu toute seule.
Exactement, mais moi je crois qu'un des problèmes, si on veut politique, si on a envie de discuter, c'est par exemple la réaction du mouvement face à Grenelle. Parce que quand même, il y a un truc, moi, qui me travaille. Alors peut-être que... c'est que pour l'extrême-gauche, pour nous tous, y compris les libertaires, Grenelle était une trahison. Ce qui est complètement idiot. Complètement idiot. Parce que, alors moi je veux bien, les Balladur, Chirac, Ségui, tout ça, c'est vrai qu'ils se sont demandé comment ça va se terminer, cette histoire. Et que rester quand même comme mythe de post-68ard, un des plus importants, c'est cette histoire de Grenelle. Maintenant, dès qu'on a un problème, on fait un Grenelle de l'environnement, on fait un Grenelle de ceci. Donc visiblement, le Grenelle a frappé la société.
Mais c'était les libertaires qui avaient raison. Car les Grenelles, quels qu'ils soient, y compris les Matignon avant, c'est du bidon. Il n'y a jamais eu de négociation.
Oui.
C'est descendu du bureau du ministre.
Oui, mais là, à partir du moment où tu entres dans une situation où tu as une augmentation du SMIC de 30%, où tu as une augmentation salariale...
Tu peux quand même lâcher quelque chose.
Et oui, bah oui, bah justement. Et surtout, c'est ce que tu viens de dire là à l'instant, que tout d'un coup, les sections syndicales qui étaient inimaginables une semaine avant, etc., arrivent à être acceptées en une minute.
Absolument.
Une minute. Ben, ça prouve quand même...
Ça, c'est la CFDT qui apparaît.
Et alors
la CFDT était à Grenelle, Alain.
Mais tout le monde est
enfin,
là,
oui, tu mais, dis c'est pas Grenelle.
Oui, mais quand tu dis la CFDT, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, une des héritières de 68 dans le mouvement ouvrier, c'est la CFDT.
Absolument.
C'est la CFDT qui s'est coltiné le problème de l'autogestion. Vous avez fait tous des cours à la CFDT, il y avait Daniel Mottet, tout ça. Vous avez de parler de l'autogestion, il y avait puis Gortz est arrivé, et tout ça, ça a donné enfin un mélange idéologique vachement intéressant. Et puis la CFDT aujourd'hui, c'est les seuls qui, quand on voit les débats, ont une position rationnelle face aux rétrogrades, je ne veux pas les citer. Et puis il y a quand même une chose aussi qui est fascinante, si on parle de 68, c'est la dernière révolte où on n'a pas parlé du climat. On ne savait pas ce que c'était. Hein, il faisait beau. Et c'est le problème, justement, de Nuit Debout. Ils n'ont pas eu de peau, il faisait mauvais. Mais à part l'histoire... Non, c'est vrai. Quand on voit aujourd'hui ceux qui menacent l'humanité, il y avait des tas de choses que nous, en 68, on était... Moi, j'étais pour le nucléaire civil. La question du nucléaire est arrivée après. Après, et donc on était d'un côté des libertaires, mais très modernistes, dans le sens, disons, d'un progrès, disons, à remettre en question tout ça. C'est pour ça que je suis d'accord avec ça. Ça a ouvert une brèche qui a aussi dans nos têtes. Et après, on a continué à penser. Donc la brèche, ça ne veut pas dire que tout s'est arrêté une fois qu'en 68, on savait tout, au contraire. Et c'est ça que je trouve fascinant. Maintenant, pourquoi je dis, moi, j'en ai marre que les autres parlent, parce que, en fait, on est dans une situation en ce moment, sur 68, où les uns et les autres ne font que s'accuser. Et moi, j'ai pas envie de participer à ça. De s'accuser, toi, t'étais ceci, vous avez détruit la famille, vous avez détruit ce sable, c'est complètement idiot. Un jeune dans les banlieues se révolte. C'est à cause de Cohn-Bendit en 68. Il ne savait même pas que j'existe, ce mec. Alors, on lui dit... Enfin, on dit n'importe quoi. Et puis, alors, d'un autre côté, vous avez Alain Krivine qui fait un article dans Le Monde. On disait, on va faire un mai 68 qui va réussir. Non, mais il faut rendre compte. Là, il est toujours sur la répétition générale. Donc, alors, la répétition générale, c'est 1905 pour 17. Ça fait 12 ans. Lui, maintenant, il attend depuis 50 ans. Alors, je ne sais pas combien de temps il va attendre jusqu'au mai 68. Alors, ils nous disent, mais si tu dis ça, tu nies le mouvement ouvrier. Non, je dis qu'aujourd'hui, les révoltes même ouvrières, les choses les plus... Et ceux qui veulent réfléchir sur la modernité du mouvement ouvrier, regardez l'accord syndical de Ligue et Métal sur la flexibilité vue par les salariés. C'est révolutionnaire. Ça part de l'intérêt des salariés de définir d'après leur plan de vie, comment ils veulent continuer à s'intégrer dans leur travail. Et ça, c'est peut-être 50 ans après, une des choses les plus grandes ouvertures de réflexion qui a commencé à cette époque. Voilà. Et à part ça, maintenant, je dois aller à un meeting d'En Marche pour leur expliquer ce qu'est l'Europe. Voilà, c'est comme ça. Le destin des autres et les destins des uns et des autres est quand même assez drôle. Voilà.
Merci, Daniel Cohn-Bendit. On vous laisse partir. Et on avait une question, Cléa avait une question sur le 22 mars, pas d'il y a 50 ans, mais de demain.
Voilà, vous pouvez encore rester parmi nous si vous souhaitez quand même juste y répondre, ça, dans la continuité de ce que vous étiez en train d'expliquer justement maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il reste quand même une réserve collective de mobilisation sociale en France? Demain, on a une grande journée de mobilisation. Quel est votre regard sur cette réserve? Est-ce qu'il y en a une et où se trouve-t-elle?
Oui, non, mais oui, évidemment qu'il y a une réserve. Il y a toujours. Enfin, c'est pas une réserve. Dans toute société, il y a toujours des moments de mobilisation. Et maintenant, on peut discuter sur le contenu de ces mobilisations des uns et des autres. Voilà. Mais c'est sûr qu'en France aujourd'hui, il y a une anxiété. Il y a des gens qui veulent défendre le statut des cheminots, bah, qu'ils le fassent. D'autres disent peut-être qu'il faudrait le réformer, on verra bien, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, qu'il y ait eu 68 ou pas, oui, une société avance et il y a des contradictions entre un pouvoir, les salariés, c'est ça la démocratie. Donc je vois pas où est le problème. Il y aura une grève, elle sera plus ou moins dure, on avancera ou on reculera. Ça, that's life.
Dans l'entretien, Daniel Cohn-Bendit de Sociaux, vous dites que souvent les jeunes vous disent, mais ils sont fascinés par la mobilisation qu'il y a eu en mai 68, et ils vous disent, mais comment vous avez fait? C'est ça.
Nous, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Je veux dire, il y a eu. C'est intéressant ce qu'on dit Alain et les deux Alain. C'est que c'est vrai que au moment où il y a eu quelque chose qui se passe dans la rue, des jeunes ouvriers qui ressentaient qu'ils en avaient marre ont rejoint. Mais idéologiquement, ils n'ont même pas réfléchi, on est pour ceci ou pour cela. Et quand on voit le déclenchement de la grève générale, elle n'a jamais été décrétée. Les syndicats additionnaient les entreprises qui étaient en grève et au bout d'un moment, ils ont dit, bah, y a une grève générale. C'est parce que toute la preuve... Mais ce sont des jeunes ouvriers, souvent, et là, qui ont lancé la grève dans les usines et puis hop, c'était parti. Voilà. Donc, je veux dire, cette question toujours, est-ce qu'il y a un potentiel? C'est défaitiste. Oui, il y a toujours un potentiel de révolte parce que la société continue à avancer, on fait des progrès, puis on peut aller plus loin, et le potentiel de liberté, il est incommensurable. Ça peut aller, on peut aller. Et là, aujourd'hui, ben, on verra, demain, vous dites une grande mobilisation. Je suis plutôt sceptique, moi. Où est-ce qui est annoncé? Allez, pour les syndicats, ça sera 500 000 dans la rue. Pour la police, ça sera 62 000 ou 100 000. Et ça sera toujours le même cinéma. Je veux dire, aujourd'hui, si on dit... Aujourd'hui, je ne vois pas, mais peut-être que demain, on va me démontrer dans les semaines à venir, je ne vois pas aujourd'hui où est vraiment le moment novateur de ce qui se passe au moment comme on y est. Je ne vois pas.
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas, oui. Moi, je suis plus prudent. Toi, tu es un peu plus âgé que moi, donc tu peux te le permettre. Moi, je dis, je ne le vois pas. Lui, il dit, là, je vois qu'il n'y en a pas. Et c'est ça. Donc, il faut... Mais à part ça, nos sociétés vivent par les conflits. Donc, est-ce qu'il y a un potentiel de conflit? Oui. Et c'est sûrement pas parce qu'il y a Macron qui est au pouvoir qu'il n'y a plus de potentiel de conflit. Non, ça continuera. Et si c'était Krivine au pouvoir, il y aurait un potentiel de conflit. Et puis si c'était Mélenchon au pouvoir, il y aurait un potentiel de conflit. Et Marine, etc., etc. Donc arrêtons de nous faire peur. Est-ce qu'il y a un potentiel? Oui, oui, les gens réagissent. Mais ce qu'on a appris depuis, moi j'ai appris, ça ne veut pas dire quand ils réagissent qu'ils ont toujours raison. C'est ça qui est difficile des fois, de comprendre ça. Voilà, c'est tout.
Merci, Daniel Cohn-Bendit. Il y a Edgar Morin qui voulait réagir.
Moi, si on revient, disons, à la conception que, dans le fond, je partage avec Touraine, c'est-à-dire que c'est un mouvement très profond, je dirais, anthropologique, qui est infra et suprapolitique, qui exprime des aspirations à mieux vivre individuellement et collectivement. Si tu prends ça, je peux dire qu'aujourd'hui, tu as un bouillonnement dans la vie associative qui va dans ce sens-là, sans avoir... Par exemple, tu as dit très justement que le problème écologique n'existait pas. C'est en 70 qu'il y a eu le rapport Meadows. Mais maintenant, tout le mouvement écolo, qui n'est pas seulement les agriculteurs qui font de l'agroécologie, mais tous ces consommateurs qui veulent des produits plus sains, des produits meilleurs, la conscience, si tu veux, qu'on peut mieux vivre, pas seulement en luttant contre les pollutions et les stress, etc., mais en changeant le mode de vie, les écoquartiers, l'économie sociale et solidaire qui veut créer des... qui veut plutôt se mettre au service des consommateurs. Il y a, disons, tout ce mouvement associatif avec des aspects de révolte comme le groupe Alternatiba qui a volé des chaises à une banque pour lutter contre l'évasion fiscale. Donc, il y a la chose, c'est que ce n'est pas un héritage direct, mais ce qui est dans la continuation, ça veut dire vivre mieux, vivre autrement, vivre différemment. Eh bien, ça, ça existe, mais c'est très dispersé dans la société française. Ça n'a pas aucune unification. Ce n'est pas connu ni des administrations, ni des politiques professionnelles. Mais c'est ça, cette vitalité. De même qu'il y avait des types, des jeunes qui sont partis élever des chèvres ou des moutons dans le Larzac. Aujourd'hui, tu as des jeunes qui partent essayer de vivre autrement à la campagne et créer des entreprises éco. Donc, il y a une postérité inconsciente de mai 68. Voilà.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va devoir libérer Daniel Cohn-Bendit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Et nous allons regarder l'intervention d'Elisabeth Roudinesco. Si on peut, et après, les questions dans la salle.
Bonsoir, je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous ce soir pour la présentation de ce très beau numéro de Socio, avec des témoignages passionnants réalisés par Michel Wieworka. J'ai donné un entretien sur, en tant que témoin, plus que comme historienne, en tant que témoin pour les événements de mai 68 auxquels j'ai participé. Mai 68, comme pour beaucoup, a changé ma vie, mais pas du tout ma vie politique, puisque j'ai pas eu d'engagement politique sur le moment. C'était plutôt, pour moi, et je le raconte, la contestation de l'enseignement ridicule qu'on nous donnait à la Sorbonne en lettres. Je dis bien au département de lettres et linguistique. On refusait de nous enseigner la modernité. Par exemple, notre professeur de linguistique, M. André Martinet, ne voulait jamais parler du plus grand linguiste du monde qui était encore vivant à cette époque et qui s'appelait Roman Jakobson. On avait interdiction d'en parler. À l'époque, Roland Barthes, qui était un brillant universitaire, qui donnait d'ailleurs son séminaire à beaucoup d'étudiants, était interdit d'enseignement. On ne pouvait pas en parler. On ne pouvait pas parler des penseurs qui nous importaient, qui sont devenus les meilleurs penseurs français d'ailleurs, dans l'héritage français. Je parlais de Michel Foucault, Jacques Derrida. Et donc il y avait une situation absolument intolérable à Sorbonne-Lettres. Et donc je fais partie des gens qui ont démis les professeurs nuls en espérant qu'il y aurait un changement. Et parallèlement, j'ai rencontré beaucoup d'écrivains, notamment à l'hôtel de Massa, rue du Faubourg Saint-Jacques, puisqu'ils avaient tous occupé ce haut lieu, de très, très bel endroit d'ailleurs, la Société des gens de lettres, fondée par Balzac. Et il y avait une effervescence tout à fait étonnante, j'avais 24 ans, à peine, 23 ans, et on pouvait rencontrer des intellectuels, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de rencontrer tout ce qui se faisait. C'était une période tout à fait festive. quand la classe ouvrière, ce qu'on appelait encore le prolétariat, la classe ouvrière, s'est joint au grand mouvement, j'avais pour ma part l'impression de voir en acte ce qu'avaient pu être les manifestations du Front populaire de 1936. Pas un instant, je n'ai considéré qu'il y aurait une révolution et que c'était plus une révolution rêvée qu'autre chose. Je suis allée à l'université de Vincennes qui a été créée. J'y étais dès la rentrée et j'ai fait ma maîtrise de lettres avec Tsvetan Todorov. Enfin, j'ai suivi évidemment les cours de Gilles Deleuze et j'ai rencontré Michel de Certeau qui a été mon maître en histoire. Donc, à l'université de Vincennes, on avait enfin, pour les étudiants de ma génération, un enseignement intellectuel qui correspondait vraiment au savoir important de l'époque. Mais 68, c'était un flou intégral, avec de tous les mouvements politiques possibles et imaginables, une beauté des affiches, enfin une beauté des moments de manifestation qu'on retrouve sur les affiches, en particulier des Beaux-Arts. Et puis il y avait évidemment ce trio très sympathique qui était Sauvageot, Gessmard et surtout, bien entendu, Daniel Cohn-Bendit. Je n'étais pas libertaire, je n'étais pas sociologue, mais je dois dire que le fameux slogan « Nous sommes tous des juifs allemands », je l'ai entonné dans la rue, j'étais à toutes les manifestations. La parole était d'une extraordinaire liberté, ça fusait dans tous les sens, c'était un spectacle assez étonnant. Voilà, et c'est le souvenir principal que j'ai gardé de mai 68, où tous les désirs étaient exprimables, certainement pas réalisables, mais exprimables. On avait l'impression d'un monde aussi qui finissait pour qu'il y ait un nouveau monde. Je crois que c'est comme ça qu'il faut étudier mai 68, qui n'est ni une révolution des mœurs, ni une révolution politique, qui est une révolution de quelque chose. En tout cas, la dernière grand soulèvement populaire en France, et du côté des mœurs certainement, mais surtout du côté de l'enseignement. C'était nécessaire. Je crois que les gens d'aujourd'hui, les générations, ne se rendent pas compte à quel point la vieille Sorbonne était vermoulue, répétitive, avec des professeurs d'un autre âge. Et ça devait être changé. Et je ne pense pas qu'on puisse accuser les étudiants de mai 68, comme on le fait aujourd'hui, d'avoir détruit l'école. On l'a plutôt reconstruite.
Monsieur Gessmard, vous voulez peut-être
réagir ? Je voulais juste dire un mot. Pour ceux qui pensent qu'il n'y avait pas de prémisse à 68 et que ça a été un surgissement un peu... Je ne parle pas des gens qui sont autour de cette table ovale, mais pas mal de gens pensent que 68 est quasiment sorti de nulle part, sinon de la fac de Nanterre, comme ça. Dire qu'il y avait dans le milieu universitaire des gens qui s'attendaient à ce qu'il se passe quelque chose, je voudrais juste dire, moi j'étais secrétaire général d'un syndicat qui à l'époque représentait un petit tiers des universitaires, une minorité, mais quand même un petit tiers, qui avait été fondé par le Parti communiste à la fin de la guerre, et qui était... J'ai été élu contre un candidat communiste qui voulait perpétuer la tradition syndicale du Parti communiste. Et j'ai été élu sur la base d'une motion qui s'intitulait en 67, hein, donc printemps 67, peut-être même un petit peu avant, je ne sais plus la date, ça s'intitulait « Pour une petite révolution culturelle à l'université ». Donc, et ça m'a donné une majorité dans cet ensemble à la suite d'un long et assez profond débat sur le fait qu'il fallait transformer radicalement l'université, donner leur place aux étudiants, etc., etc. Donc je voulais simplement dire qu'il y avait vraiment, comme que je parlais tout à l'heure des grèves ouvrières, il y avait, y compris dans le monde universitaire, tout un travail en profondeur qui était en train de se faire. Et chez les scientifiques en particulier, l'image d'une science moderne, par exemple, comme ce qui se faisait aux États-Unis, était extrêmement forte, alors qu'on vivait un enseignement scientifique en France, c'est un peu ce que dit Roudinesco sur les lettres. L'enseignement scientifique qui était pratiqué en France la relativité et la mécanique quantique, ça atterrissait en fin de licence. Ça semble invraisemblable quand on en parle maintenant, mais c'était comme ça. Un lycéen n'en entendait évidemment jamais parler, en tout cas pas par ses profs, et à la fac quasiment non plus. Voilà.
Merci beaucoup. Je vous propose maintenant qu'on passe peut-être aux questions avec la salle.
Merci, merci beaucoup. C'est un moment magnifique de vous entendre. Je voudrais savoir pourquoi mai 68 en France reste un clivage entre la droite et la gauche.
Qui veut répondre ? Alain Touraine.
Je dirais que c'était quand même aussi, et peut-être même d'abord, un clivage à l'intérieur de la gauche, parce que la droite, elle était hors jeu pendant une période. Et c'est quand même, il faut bien le dire, le 13 mai, c'est la rupture avec le Parti communiste, quand même. Quand même. Quand ils ont refusé la présence de Cohn-Bendit. Et moi, je me souviens très bien, du 13 mai, l'arrivée à Denfert-Rochereau. Moi, je m'étais mis là, à la fin de la journée, et il y avait la CUT qui disait « Vos autocars sont par là pour retourner à Beauvais ou à Romorantin », et Cohn-Bendit qui disait « Sit-in au Luxembourg ». Bon, c'était vraiment la séparation. C'est quand même la grande affaire de la vie politique française que de mettre fin au règne du Parti communiste, c'est-à-dire à l'emprise du politique sur le social, la disparition de l'acteur social. On n'en parlait plus. La CGT, c'était le syndicat du Parti communiste, point. Bon. Voilà, c'est ça. Et c'est en ce sens-là qu'il n'y a pas du tout un mouvement étudiant, mais un mouvement de, j'allais dire, retour à la base, retour à rechercher, y compris dans la personnalité, dans la conviction, comme on le dit plutôt chez les sociologues, la raison d'être de l'action plutôt que de la stratégie.
Alors, j'espère.
Pour compléter, parce que je suis pour une grande part d'accord avec ce que vient de dire Alain, moi je le formulerai autrement. Je pense que c'est la fin du monopole du PC sur les mouvements sociaux, sur l'intelligentsia, qui était quand même terriblement focalisée, qui était depuis la libération, qui était terriblement sous emprise communiste. Bon, un petit détail, juste bon, pour être exact, mais ça c'est mes vieilles manies. Quand Georges Ségui m'a accueilli au petit matin des barricades à la Bourse du Travail, où il avait demandé que je vienne, il avait dit « on t'attend depuis 2h du matin ». Je dis « mais tout le monde savait où j'étais, c'était pas difficile, t'aurais pu venir ». Et puis la première chose qu'ils ont demandé, c'était que qu'on fasse cette manif du 13 mai, mais ils ne voulaient pas de Dany en tête de la manif. J'avais la force et la représentation, la représentativité donnée par la nuit des barricades, je l'ai imposée là. Ça a été accepté, y compris par la CGT et tous les autres. Et à tel point, ils étaient dans un état complètement tétanisé par ce qui venait de se passer et par le mouvement d'opinion qui se créait autour, que c'est moi qui étais leur porte-parole pour appeler à la manifestation et à la grève générale du 13 mai.
Merci. Donc,
Alain Gesmar, porte-parole de la CGT. C'est pas mal.
Une fois.
Est-ce qu'on prend une autre question de la salle ?
Il y a aujourd'hui malheureusement un absent parmi les grands témoins de l'époque. C'est Jacques Sauvageau, qui est disparu récemment, malheureusement. Est-ce que quelqu'un pourrait nous en dire un mot ?
Merci, madame.
Jacques a été victime d'un accident de la circulation il y a quelques semaines. Il est mort. Il était étudiant en esthétique à la faculté des lettres et sciences humaines de Dijon. et militant de l'UNEF à Dijon, il était devenu presque par accident, il avait fait fonction de président de l'UNEF parce que l'UNEF était dans une crise monumentale et que traversée par tous les groupuscules dont il a été, qui ont été mentionnés précédemment. C'était par mise de la fonction qu'elle avait eue, l'UNEF, pendant la guerre d'Algérie. Elle avait été un des phares de la contestation de la guerre d'Algérie, y compris amplifié par l'appel sous les drapeaux des étudiants, la brisure des sursis. Et Jacques Sauvageau s'est improvisé président de l'UNEF, a pris les affaires quelques jours avant le 3 mai, a été arrêté par la police dans la cour de la Sorbonne le 3 mai en fin d'après-midi, et il a rempli la fonction qui pouvait être attendue de lui avec une grande énergie, un grand courage. C'était pas du tout évident d'être en même temps le porte-parole d'un mouvement étudiant qui peinait à reconnaître l'UNEF comme légitime. Donc il a eu à faire un effort considérable et il a joué son rôle jusqu'au bout. Il était, comme moi, responsable d'un syndicat et à ce titre, il était, je dirais, entre guillemets, au début en tout cas, comestible par les organisations comme la CGT, la CFDT, etc. Et ça permettait de maintenir, y compris la fiction d'une unité, au moins pour appeler à certaines manifestations et au début du mouvement. Donc il a joué un rôle considérable. Ensuite, il a eu une vie difficile. Parce qu'il a eu une fille extrêmement malade. Ça l'a, pour une part, rappelé au milieu de son noyau familial qui était en difficulté. Et il nous a quittés et c'est très dommage parce que on a eu besoin de lui et on aurait encore besoin de lui.
Merci, Esma. Une autre question ?
Madame avait une question, je crois.
Je suis un peu ignorante parce que je n'étais pas là en 68. Je viens de la Hongrie et je suis arrivée à 75, une fois 71, mais à 75 définitivement. Et je me suis retrouvée à l'université Dauphine où, si je ne me trompe pas, Michel Bibiorka était enseignant. C'est vrai, Michel? Donc, bonjour et je suis ravie de vous retrouver, ou plutôt de te retrouver. Parce que moi, je me suis inscrite dans un DEA, ou, je ne sais pas, gestion d'entreprise, une connerie comme ça. Et un copain grec me dit, mais viens au cinquième étage, tu ne peux pas imaginer ce qu'il y a là-bas. Il y avait Palmade, Alain Aymar, Max Pagès et que sais-je. Et ma question, d'abord, quel est le lien entre 68 et Dauphine? Et pourquoi aujourd'hui, à Dauphine, il n'y a plus rien de tout ça? Et où vous êtes tous. Voilà. Et bon. Merci, parce que j'ai eu de la chance de faire ça pendant des années et des années, mieux qu'à n'importe quelle université psycho.
Alors, merci. Merci. Bon, beaucoup. Ça fait plaisir de retrouver les anciens de cette époque. Juste un mot. Tout à l'heure, Elisabeth Rodinesco a dit tout le bonheur qu'elle avait de s'être retrouvée à Vincennes. En réalité, tout de suite après l'été, le gouvernement a décidé de créer deux universités. Vincennes, pour calmer la gauche de la gauche, et Dauphine, pour calmer plutôt les quartiers bourgeois. Et donc Dauphine était une fac bourgeoise. Alors il y a eu un petit noyau, comment dirais-je, de gens qui avaient quelques liens avec 68, mais moi c'est le hasard le plus grand qui a fait que je me suis retrouvé à Dauphine, mais très franchement, il y a toujours eu un petit peu de contestation. Mais ça n'a jamais été un haut lieu où soufflait l'esprit de 68. Simplement, j'ajouterais juste une chose. Quand j'étais enseignant à Dauphine, un jour, on nous a dit « Michel Rocard va devenir prof à Dauphine ». Alors là, il y a eu beaucoup d'agitation. Et tout ce que Dauphine comptait d'un peu gauche de la gauche, pour le dire comme ça, s'est retrouvé dans l'amphithéâtre où Michel Rocard faisait un cours. Alors, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était quelque chose de très financier, très technique. Donc, le premier cours qu'il a fait, totalement financier, personne n'a rien compris. Le cours d'après, il n'y avait plus que la moitié des étudiants et il a continué. Enfin, au bout d'un moment, il a eu uniquement le public qu'il souhaitait avoir. Donc, voilà. Dauphine, c'était un endroit où il y avait un petit peu de sensibilité à 68 et à ce que ça avait pu fabriquer, mais très, très peu. Très peu.
Il y avait quand même de l'or.
Ah, mais ça, c'est... Alors là, il faudra faire un autre numéro de cette revue et parler d'autre chose. Ça, Delors, Attali, c'était les gens qui se sont retrouvés à Dauphine plutôt vers la fin des années 70 et qui ont préparé l'élection de Mitterrand. Moi, j'étais leur collègue. Je les voyais faire la queue. Il y avait une seule photocopieuse à l'époque. Ils faisaient la queue, Attali, Delors et d'autres. Ils faisaient la queue devant la photocopie pour fabriquer, pour préparer les documents qui allaient servir à la campagne de Mitterrand. Mais ça, c'est une autre histoire.
Mai 68 s'inscrit bien dans un contexte mondial, ça a été rappelé par les divers intervenants. Mais il y a une spécificité française tout de même, car c'est finalement le seul pays où le pouvoir a été ébranlé. On a eu un chef d'État qui a disparu pendant quelques jours pour revenir. Oui, si vous voulez. Donc la spécificité, c'est quand même l'ébranlement du pouvoir aussi. Que les mouvements commencent à Berkeley, on le comprend. La guerre du Vietnam a rappelé tout à l'heure. C'était une menace considérable pour la société américaine. Or, c'était pas le cas en France, finalement. Et le pouvoir a été ébranlé. Certes, il n'a pas été tout à fait anéanti, mais il a été ébranlé. Et il me semble que cette spécificité est assez peu explorée. On a beaucoup de témoignages qui n'épuisent certes pas le sujet, mais je crois qu'on n'arrive pas à comprendre véritablement ce qui s'est passé.
Alain Touraine,
et peut-être que les archivistes dont parlait Gessmar nous aideront à progresser.
Je voudrais dire un mot là-dessus, un peu indirect, mais il ne faut pas oublier que la France, après 1945, pendant la période des Trente Glorieuses, comme pratiquement toujours dans son histoire, c'est beaucoup moins une société qu'un État. Les gens qui sont au pouvoir après 1945, c'est De Gaulle et les communistes, ils s'intéressent énormément à la France et pas du tout aux Français. On reconstruit les chemins de fer, on ne construit pas de maison pour les gens. Manuel Castells a fait des livres qui sont devenus célèbres sur le retard à toute l'amélioration du niveau de vie, et ce qui était d'ailleurs peut-être parfaitement justifié, c'est une autre affaire. Mais disons, pendant toute la période, et puis la guerre d'Algérie, et les guerres coloniales, y compris l'Indochine, etc. Autrement dit, pour comprendre 68, il ne faut pas seulement dire ce qui s'est passé en 67, mais ce qui s'est passé depuis 1945, et surtout depuis 1947, n'oubliez pas qu'à partir de 1947, l'Europe est coupée en deux. Les partis communistes sont mis hors de la loi dans la plupart des pays, en Allemagne par exemple. Bon, et par conséquent, pendant toute cette période-là, c'est, disons, la notion de la nation, du pays, de l'État qui l'emporte, et donc il y a une frustration générale qui prendra toutes les formes, mais aussi des formes d'extrême droite, d'ailleurs, ou du poujadisme de cette époque-là. Mais c'est seulement, je veux dire par là, quelque chose de beaucoup plus général que mai 68 ici, c'est que la citoyenneté était une notion qui avait pratiquement disparu, où c'était la notion de rétablir l'État et de faire en particulier que la France puisse être à nouveau, ce qu'elle ne méritait plus, une grande puissance, et qu'on puisse, et c'est pour ça qu'on a fait l'Europe. Bon, alors tout ça, c'est, disons, il faut bien comprendre qu'il y a, avec ça, plus les guerres coloniales, disons, vous avez une scène sociale et culturelle intérieure qui est assez vide et déprimée. Je voudrais vous rappeler que dans à peu près tous les pays occidentaux, sauf l'Angleterre, ce qui est tout à fait intéressant, il y a extrêmement peu, pendant 20 ans, d'études sur le nazisme, d'études sur ce qui s'est passé, d'études sur toutes les formes de régression. En Allemagne, les programmes scolaires ont commencé à changer 20 ou 25 ans après, très intelligemment, et en France, presque rien. Et on a parlé de la réforme des lycées, elle ne s'est jamais faite. Je voudrais bien qu'on la fasse demain. Moi, je suis candidat pour la faire demain. Mais il n'y en a pas eu de réforme de l'université.
Merci beaucoup, Alain-Antoine.
Edgar Morin voudrait réagir.
Oui, pour répondre à votre question, la difficulté de comprendre et d'expliquer tient au fait qu'il y a eu aussi bien des causes endogènes, et c'est exactement ce que vient de rappeler Alain Touraine, des causes endogènes qu'il faut remonter loin, et des causes exogènes, c'est-à-dire quand même que c'est une année d'inflammation généralisée pour la jeunesse étudiante dans le monde, et que s'il n'y avait pas eu cette chose-là, il n'y aurait peut-être pas eu à ce moment-là l'explosion que nous avons connue. D'autre part, l'événement présente différentes facettes qui sont absolument apparemment contradictoires. C'est un mouvement ludique, de jeu, d'inscription au pochoir, jouissons sans entrave, etc., sous les pavés, la plage, etc. Et en même temps, c'est un mouvement qui se veut sérieux, c'est un mouvement qui se veut profond. C'est quelque chose qui mime les grandes révolutions, notamment les barricades. Les barricades, c'est les barricades de la libération de Paris d'août 44. C'est en même temps les barricades de 48, etc. Donc, il y a quelque chose de multiple dans ce phénomène. J'emploie mon mot favori, complexe, parce que ça a plusieurs visages. D'où la diversité des explications, et je crois que chacune en tient peut-être un petit bout, et que la grande difficulté, c'est de les relier les unes aux autres, qui se travaillent encore inachevés, parce que si le temps qui passe nous donne un nouveau recul et une nouvelle vision, ce que je pensais en 78, 10 ans après, n'est plus ce que j'ai pensé en 88 et en 98, surtout après la chute du mur de Berlin. Le mouvement, cette histoire est relativisée, elle est plus historisée. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, ce que nous faisons ici, grâce à cette revue, à l'initiative de Viborca, c'est-à-dire de repenser mai 68, on voit que c'est un travail nécessaire. Et d'ailleurs, moi, j'ai vu dans différents... dans le monde, je crois, ou ailleurs, la multiplicité encore aujourd'hui des interprétations de mai 68. Donc c'est un problème difficile à élucider et qu'on ne peut élucider en partie qu'en reconnaissant sa complexité et ses aspects contradictoires.
Au juste un mot. Est-ce qu'on peut... Je sais pas, est-ce qu'on peut pas dire que mai 68 a été un moment... poétique au moins autant que politique. Edgar Morin a dit anthropologique tout à l'heure, je trouve que c'est très bien, mais il y avait, vous l'avez dit, du jeu, enfin, beaucoup d'éléments qui font que ça a joué avec le politique, ça a aussi un peu déjoué le politique, mais enfin, il y a cette dimension poétique peut-être qui surgit pas si souvent que ça au plan collectif, et c'est peut-être ça qui nous reste de plus beau et peut-être de plus mémorable de 68, c'est que ça a été ce moment poétique que le politique ne résume pas.
Merci. Qui veut réagir, Edgar Morin, Alain Touraine?
Moi, je demanderais bien volontiers à Alain Gesmar s'il avait le sentiment de vivre un moment poétique. Ça.
Oui, et madame aussi.
Oui et non, de vivre un moment totalement exceptionnel. Enfin, je veux dire, moi ça m'a certainement transformé. Beaucoup. Mais je veux dire, en même temps, j'étais aussi totalement pris par la quotidienneté et le mouvement de minute en minute ou d'heure en heure. Donc, même si j'ai été pris par la poésie du moment, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite.
Je trouve que c'est une... Oui, bonjour, Claudine Monteil. J'étais en 68 avec Cohn-Bendit à Nanterre. J'ai fait les barricades et j'ai ensuite fondé le mouvement de libération des femmes après avoir été main haut avec toi, Alain. Et tu as été mon chef et je suis allée à ta libération. J'ai célébré, j'ai pleuré pour ta libération et je suis très touchée de te voir aujourd'hui, de te voir toujours en si bonne forme. Tu me pardonnes, je te tutoie parce qu'à 50 ans... On se tutoie. Voilà, simplement pour dire que merci beaucoup pour cette soirée passionnante, très vivante. Je dois dire que j'ai revécu des choses de part et d'autre. Je suivais les cours d'Alain Touraine, donc je suis très heureuse de vous revoir aussi. Et pour dire que vraiment, vous avez chacun montré de manière très vivante. Et j'ai beaucoup apprécié également l'intervention d'Elisabeth Roudinesco, qui a vraiment très monté. Mais je voudrais dire surtout, d'abord, la poésie. Oui, monsieur, moi j'ai ressenti vraiment de la poésie également. Évidemment, on était un peu pris, mais je dirais surtout que ce qui a été extraordinaire pour nous, les femmes, c'est que 68, c'est aussi la première année où l'on commence à diffuser la pilule en France. C'est-à-dire qu'il faut des autorisations, donc l'accès à la contraception pour les jeunes filles, c'est la première année, mais il faut quand même une autorisation parce que la majorité était à 21 ans. Mais quand même, c'est un moment important pour nous, les jeunes filles. C'est le moment de la déculpabilisation, le droit d'aimer et d'être aimé. Et je dois dire que l'une des personnes, quand même l'un des aspects les plus extraordinaires, je le dis pour les jeunes générations, c'est le fait que nous avons une vieille dame, une dame qui me semblait très vieille, mais dont je suis plus vieille aujourd'hui qu'elle, à l'époque, c'est Simone de Beauvoir, qui nous a rejoints. Nous, les jeunes de mai 68, les jeunes femmes qui avons milité dans les groupes maoïstes, elle nous a rejointes, elle a milité jour après jour jusqu'à sa mort en 76, et nous n'aurions jamais été aussi rapides dans l'instauration du mouvement de libération des femmes, dans la libération des femmes. Mais mai 68, ça nous a dit, tu es d'accord Alain, que c'était véritablement que nous ne voulions plus attendre pour une révolution hypothétique dont vous avez parlé tous les deux, Edgar Morin et Alain Touraine très justement, et que donc nous ne voulions plus attendre une révolution. On nous disait toujours la condition des femmes changera à la révolution. Non, et nous avons voulu changer tout de suite le monde, c'est ce que nous avons fait, et je tiens à vous dire que nous l'avons fait sous les ricanements, nous avons été traités de ridicules, mais en attendant 50 ans plus tard, eh bien, je tiens à vous dire que je suis très heureuse et très fière de ce que nous avons accompli avec Simone de Beauvoir tous les jours, et je vous remercie infiniment parce que c'est vraiment une très belle soirée, passionnante.
Oui, merci. Oui, moi, mon souvenir de 68, c'est en septembre 68, on m'a demandé de fonder le département d'informatique de la faculté de Vincennes. Et il n'y avait pas d'ordinateur, donc c'était assez compliqué. Mais j'ai une question qui est... il me semble qu'il y a quand même une composante qu'on n'a pas beaucoup évoquée et qui, pour moi, est un grand moment de 68, c'est le situationnisme et qui était aussi... avec ce qui s'était passé à Strasbourg, à un des points qui était à l'origine de 68, une des causes de 68. Quel est votre sentiment à propos du situationnisme ?
Moi, je voudrais juste dire un mot. Moi, ce qui me surprend dans le mouvement situationniste de Strasbourg, ce qui m'a surpris à l'époque, et je suis toujours aussi étonné, c'est qu'il soit resté complètement circonscrit à Strasbourg, à ces facs et à cette équipe situationniste. Parce que, vu ce qui s'est passé après, on pourrait imaginer que tout était en place pour que cette démarche... Je vais te passer le micro. Que ça embrase le reste. Je pense que c'était... Je pourrais juste tenter faire une petite tentative d'interprétation... C'est que c'était tellement radical, que ça, tellement hors sol, ça pouvait difficilement passer. Mais je sous toute réserve.
Alain Touraine.
Toute petite réserve, c'est que concrètement, de Strasbourg, le situationnisme est passé à Vincennes par Henri Lefebvre et Baudrillard. C'est-à-dire. À Nanterre, pardon. À Nanterre, je veux dire, la sociologie à Nanterre, il y avait Lefebvre et Baudrillard.
Oui, bien sûr.
Bon, et par conséquent, il y a eu une présence. Mais alors là, je ne suis pas compétent pour juger, donc je ne veux pas trop commenter, mais mon sentiment, c'est plutôt un sentiment d'auto-isolement des situationnistes.
Non, puis alors, un petit élément historique, Lefebvre, quand il était enseignant à Nanterre, non seulement, enfin, les situationnistes avaient rompu avec lui. Oui. Il l'avait accablé d'injures parce qu'il l'accusait d'avoir copié ou mis sous sa signature un texte situationniste. D'ailleurs, c'est vrai qu'ils ont cultivé une sorte d'auto-isolement. Oui. Pour vous donner un petit incident dont j'ai été témoin, c'est qu'ils étaient très enragés aussi contre la revue Argument qui était morte depuis longtemps et dont je m'étais occupé avec quelques autres, dont Axelos. Alors, pendant les événements de mai, Axelos devait aller à la Sorbonne prendre la parole, comme tellement de gens allaient. Et avant qu'il aille à la Sorbonne, arrive un groupe d'étudiants chez lui qui dit « on veut vous parler ». Ce sont 5 ou 6, et une fois qu'ils sont chez lui, il disait « espèce de salaud de canaille, tu vas écrire ton autocritique pour dire que tu renies argument, etc. » Alors Axelos fait son autocritique, les types partent triomphants avec cette lettre à la Sorbonne, et Axelos, lui, part aussi à la Sorbonne, et prend la parole en disant « des petits merdeux m'ont obligé à signer, etc. » Bon. Et le lendemain, il trouve devant la porte de son appartement un tas de merde accumulée par les citations. Alors, à ce moment-là, il est très embêté. Et il m'appelle. Il m'a dit « Écoute, je ne sais pas s'ils sont là, mais viens, je vais changer de domicile et viens sur elle. » Et alors, je me rappelle très bien que je suis allé avec mon ami André Burguer. Je l'ai dit « Attends en bas ». Et moi, je montais les marches avec circonspection, craignant de recevoir de l'excrément au visage. Et finalement, j'ai délivré le malheureux Axelos, qui avait en plus une canne avec une canne épée pour se défendre. Pour vous donner ce genre de petit incident, mais qui témoigne un peu de... Mais il est certain que parmi quelques-unes des sources de ce qu'on appelait les enragés, il y a eu le situationniste, comme il y a eu socialiste ou barbarie, comme il y a eu d'autres sources. Mais c'était extrêmement restreint.
Merci beaucoup, Edgar Morin. Alors, il y a une dernière question, je crois, à ma gauche.
Bonsoir. En tout cas, merci pour ce moment, même si c'est une expression qu'on ne peut pas trop dire encore. Mais c'est quand même, pour moi qui suis né une trentaine d'années après mai 68, c'est une expérience très enrichissante. C'est une vraie, un vrai moment enrichissant de pouvoir vous entendre. Ma question rebondissait sur deux choses que j'ai pu entendre. La première, c'était que le mouvement mai 68 était un mouvement de liberté contre l'autorité, mais pas donc qui libéralisait les mœurs que dans la société, comme le rapport aux femmes, ce qui a été dit tout à l'heure, mais pas un mouvement qui luttait contre le pouvoir. C'est-à-dire que c'est l'autorité et le pouvoir, c'est quelque chose que je différencie assez. Et par la suite, l'après mai 68, ce qui a été dit aussi, c'est que c'était une tombée dans la société de consommation. Et la question que je me posais, c'est est-ce que ce mouvement de libéralisation culturelle n'a pas en quelque sorte, si ce n'est favorisé, du moins facilité, l'avènement de la société de consommation qui a fleuri dans les 30 années qui ont suivi?
Juste un mot. Quand on dit « le mouvement ne luttait pas contre le pouvoir », il s'agit de ne pas se tromper sur les mots. Un mouvement, ce n'est pas un parti politique. Le mouvement de 68 n'était pas un parti qui avait une histoire, une doctrine, une stratégie. C'était en aucune façon c'était quelque chose qui se construisait en marchant avec les gens qui étaient là et qui participaient d'émotions communes, d'envies communes, de refus communs. Lui imputer une stratégie ou une autre est une erreur sur la nature profonde du mouvement. Moi, j'en suis totalement convaincu. Et il y a des tas de gens qui, dans les commentaires qui sont faits depuis des années, racontent des bêtises, justement parce qu'ils prennent le mouvement de 68 comme quelque chose de construit qui aurait eu une autonomie de pensée et de stratégie, ce qui n'était en aucune façon le cas. Et c'est peut-être même le fait qu'il ne l'ait pas qui a fait toute sa richesse et qui lui a permis de rassembler et de diffuser, y compris à des gens qui en seraient surpris. Quant à savoir si ça a augmenté ou pas l'appétence pour la société de consommation, je veux dire, elle s'est produite dans tous les pays, et je ne suis pas sûr qu'il y ait une spécificité française particulière qui aurait pu être imputable à 68. Mais enfin, il est possible que ça y ait contribué, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dès l'année qui a suivi, la pub s'est faite en réutilisant, en réinvestissant des slogans de 68. C'est-à-dire que les publicitaires, eux, ont fait tout ce qu'ils ont pu pour capter ça. Ça, c'est certain.
Merci beaucoup. Le mot de la fin pour Michel Yeliorka.
La fin FIM, je vous signale que nous allons pouvoir nous retrouver autour d'un verre et de canapé ou autre petit four. Je voudrais juste dire un mot, ou deux. Premièrement, remercier tous ceux qui ont monté cette rencontre. Ça a l'air de rien, mais je salue Chloé en particulier, le directeur Pascal Rollo des éditions, de la Fondation, mes deux ou trois collègues de la rédaction de Sociaux. Je vois Stéphane Dufoy ici, j'ai vu Jean-Pierre Dozon un peu plus loin par là. Et bon, c'est un gros travail. Et donc, je vous invite à prendre connaissance de cette revue. C'est une jeune revue. Et donc, ce numéro, c'est le numéro 10, qui est un numéro pour moi un peu singulier. Mais je vous invite à découvrir cette revue qui est en open access, c'est-à-dire que vous pouvez la lire gratuitement sur Internet et que vous pouvez aussi la découvrir sur papier. Je crois qu'il y a un stand. C'est Chloé qui me fait des grands signes. Vous pouvez l'avoir au fond de la salle là-bas. Voilà, écoutez, je crois qu'il faut savoir, comme on disait en d'autres temps, terminer une rencontre. Donc, on fait ça autour d'un verre. Les deux, Alain et Edgar, sont avec nous. Et je voudrais enfin terminer en disant que ça a été un superbe partenariat avec The Conversation, qu'on a été très heureux de distiller jour après jour des extraits des articles de ce numéro. Et qu'il y aura certainement d'autres aventures collectives.
Avec plaisir. Merci Michel, merci à tous.
Merci à tous.